dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
Sorti en 1957, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick n'est pas seulement un film de guerre porté par son acteur star Kirk Douglas. C'est surtout un brûlot d'une telle virulence que pendant 18 ans, personne n'a osé le distribuer en France. Aujourd'hui encore, c'est une œuvre férocement antimilitariste, une charge inouïe contre l'armée en tant qu'institution, mais contrairement aux apparences, ce n'est pas du tout un film anti-français. Mais pourquoi diable pourrait-il être taxé d'anti-français, me direz-vous ? Tout simplement parce qu'il s'inspire d'une affaire pas franchement flatteuse pour l'armée française, celle des caporaux de soins. Le 10 mars 1915, une compagnie épuisée par les assauts sanglants refuse de quitter sa tranchée. Leur général veut les contraindre à obéir en leur faisant tirer dessus au canon. L'officier d'artillerie refuse d'obéir sans ordre écrit. L'attaque échoue, 24 hommes sont choisis de manière arbitraire et passent en cour martiale. 4 sont finalement fusillés, 4 caporaux rentrés dans l'histoire comme les caporaux de soins. L'affaire inspire un Américain, Humphrey Cobb, qui en tire un roman. Cobb a lui aussi combattu pendant la Première Guerre mondiale, il en connaît les horreurs. Les Sentiers de la Gloire est publié en 1935. Très vite, il est adapté au théâtre, à Broadway. La pièce est un échec, Cobb aimerait alors voir son roman adapté au cinéma. Un vœu qui ne se réalisera pas de son vivant, le romancier meurt en 1944 et il faudra attendre 1956 pour que les droits des Sentiers de la Gloire soient achetés par le réalisateur Stanley Kubrick et son producteur James Harris pour la somme de 10 000 dollars. À l'époque, les deux hommes sont sous contrat avec la MGM. Kubrick vient de boucler son troisième film, L'Ultime Razzia, qui a eu de bonnes critiques, mais pas le succès espéré par le studio. Échaudé par l'échec de La Charge Victorieuse en 1951, la MGM n'est pas motivée pour tourner un film de guerre. Officiellement, Stanley Kubrick et James Harris se lancent dans l'adaptation de Brûlant secret de Stefan Zweig. Mais sous le manteau, il demande à Jim Thompson, le co-scénariste de L'Ultime Razzia, de travailler sur une première mouture des Sentiers de la Gloire. Et évidemment, la MGM l'apprend, n'apprécie pas et rompt le contrat de Kubrick et de Harris. Pas découragés pour autant, les deux hommes savent qu'ils ont besoin d'une star à leur générique. Ils tentent leur chance auprès de James Mason, qui refuse. Richard Burton est sollicité et lui non plus ne veut pas. Beaucoup pensent que le film n'a aucune chance d'être un succès commercial. La fin est jugée trop déprimante. Gregory Peck manifeste quand même un certain intérêt, mais il n'est pas disponible tout de suite. C'est alors que Stanley Kubrick et James Harris rencontrent Kirk Douglas. Lui est une superstar, il vient de créer sa société de production, Birna Productions. Kubrick fait lire la première mouture du scénario à Kirk Douglas qui est emballé tout de suite. Il aurait même dit « Stanley, ce film ne rapportera pas un dollar, mais il faut absolument que nous le fassions ». La présence de Kirk Douglas permet de débloquer le projet. L'acteur impose le film à United Artists en le liant à un succès assuré, Les Vikings. Il est coproducteur et acteur principal. Également coproducteur, Kubrick embauche un nouveau scénariste, Calder Willingham, pour remanier le scénario écrit au départ par Jim Thompson. Et il raconte quoi, ce scénario, finalement ? Pas l'affaire des caporaux de soins, pas directement. Le roman d'Humphrey Cobb s'en a inspiré, mais n'en reste pas moins une fiction. Et le film adapte le roman. Il est situé en 1916, sur le front français. un général ordonne une attaque sur la Fourmilière, une colline a priori imprenable. Évidemment, l'attaque échoue. Dans l'extrait que vous allez entendre, le général ordonne à son artillerie de tirer sur ses propres hommes, ceux qui n'ont pas quitté les tranchées. Son officier de transmission est atterré de devoir transmettre un tel ordre, et à l'autre bout du téléphone, l'officier d'artillerie exige un ordre écrit. On en parlait au début de cette chronique, cette histoire démentielle est bien arrivée dans la réalité, sur le front en 1915.
General, the battery commander reports those are our own positions. He says it must be a mistake.
Confirm the order, Captain.
Yes, sir. There is no mistake. The order is confirmed.
Battery commander respectfully reports he cannot execute such an order unless it is in writing and signed by the general. Over.
General, battery commander respectfully reports he cannot execute such an order unless it is in writing and signed by the general.
Give me that phone.
Yes, sir.
General Miro speaking.
Battery commander speaking, sir.
The troops are mutinying, refusing to advance. Fire as ordered until further notice.
With all respect, sir, you have no right to order me to shoot down my own men unless you are willing to take full and undivided responsibility for it.
Furieux, le général qui a imaginé l'attaque veut des coupables. Trois hommes sont choisis de manière totalement arbitraire et passent en cour martiale. Ils risquent la peine de mort, mais ils ont tout de même un défenseur, leur propre chef, le colonel Dax. Incarné par Kirk Douglas, il devient l'avocat de ces trois hommes. La semaine prochaine, je vous raconterai le tournage des Sentiers de la Gloire et surtout les réactions qu'il a provoquées. Non seulement il a créé des remous dans les milieux militaires, mais il est aussi devenu un enjeu diplomatique. Si le film est sorti en 1957, il faudra attendre 1975 pour que le public français puisse enfin le découvrir sur grand écran.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet. À retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.